Question de la semaine. Est-ce que les personnes réfugiées en situation de handicap reçoivent suffisamment d'aide pour assurer leur inclusion au Québec? Que pouvons-nous faire pour les soutenir?
N'oubliez pas de répondre, vous pouvez le faire sur canalm.vusezvoix.com, sur les réseaux sociaux. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il est possible d'intervenir toute la semaine de la diffusion de cette émission. Seulement, c'est heureux d'accueillir vos commentaires, vos expériences, mais il n'y a rien de mieux que d'alimenter convenablement le sujet. Et c'est pour ça qu'on a à table deux intervenants majeurs. Je suis désolé, je ne vais pas vous flatter en commençant, mais je suis obligé de le faire. Deux intervenants majeurs qui accueillent, qui connaissent la problématique de l'accueil des réfugiés. Alors, d'abord avec nous, Véronique Harvey, travailleuse sociale et psychothérapeute spécialisée en intervention auprès des personnes réfugiées au RIVO. Juste le dire une bonne fois, RIVO, c'est le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée. Bonjour, Madame Harvey.
Bonjour.
Merci d'être là. Et aussi Sylvain Thibault, coordonnateur au volet parrainage de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Son petit nom, c'est le TRCI, qu'on reconnaît souvent.
TCRI.
Ah, ben oui, voyons. j'ai affirmé ma dyslexie. Enfin bref, TCRI. Voilà, merci à vous aussi d'être avec nous. C'est gentil. Donc, j'oserais commencer d'abord avec vous, Véronique. Harvey, qui avait une expérience très concrète de cette expérience, de l'accueil, puis je dirais aussi de l'exil, de tout ce qui vient. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que vous n'êtes pas dans un organisme très ancien, là. C'est assez jeune, le RIVO.
Non, pas vraiment. En fait, ça fait plus de 25 ans qu'on existe.
OK, d'accord. Mais récemment, vous avez eu un financement dans les dernières années qui était substantiel,
ben,
non?
En fait, on est encore en train de récupérer des coupures de 2012.
Bon, ça va super bien. OK, donc... Vous êtes nécessaire, vous êtes là depuis 20 ans. Je m'en excuse pour ces imprécisions dès le départ, mais qu'est-ce que vous faites concrètement?
Bon, alors, au RIVO, donc, comme vous l'aviez très bien dit tout à l'heure, on est un réseau d'intervenants, mm-hmm. principalement composé de psychothérapeutes, de psychologues. On a quelques massothérapeutes. Et en fait, nous, on offre des services de soutien psychologique et de psychothérapie mm-hmm. Au niveau du trauma. Ouais. Et des enjeux d'adaptation, des stress d'adaptation reliés au parcours migratoire et à l'adaptation une fois que les personnes sont arrivées dans le pays d'accueil. Mmh. Et nous, vraiment, ce qu'on traite, c'est la violence organisée. Ce qu'on entend par violence organisée, c'est une violence qu'il faut relier à l'État. Soit que l'État a délibérément orchestré, planifié un acte de violence envers un individu ou un groupe, mmh. ou a négligé pour une raison ou une autre.
Même de manière indirecte.
Hein, même de manière indirecte, n'a pas su protéger les victimes. Mmh. Puis ça, nous, on élargit cette définition-là au RIVO à de la violence sociale, comme des cas de violence envers les femmes, des profils de femmes qui ont vécu de l'inceste, des viols, des mariages forcés, de l'excision, mais aussi les personnes qui ont été persécutées et torturées sur la base de leur orientation ou leur identité sexuelle, leur opinion politique ou leur affiliation religieuse ou ethnique.
Tout ce qu'on essaie de protéger ethnique. Avec les chartes ici, mais qui jouit d'une protection assez variable de par le globe.
C'est ça, c'est que nous, on se concentre sur les personnes issues de pays où il n'y a pas de protection pour cette forme de violence sociale.
Oui. Est-ce qu'on a peur d'utiliser violence systémique? Est-ce que c'est la même chose?
Bien, c'est-à-dire que la violence systémique, c'est une violence qui vient des systèmes, donc c'est plus au niveau de l'entourage de la personne. Donc, on va parler de violence familiale, violence de la communauté, une violence plutôt sociale, mais qui n'est pas nécessairement à caractère politique.
OK, donc quand c'est organisé, ça vient vraiment... d'action ou d'inaction de l'État.
Oui, exactement.
Mmh. Okay.
Mais c'est de la violence humaine. Oui. Dans tous les cas, on traite un trauma qui est fait de la part d'un humain envers un autre. Mmh. Et le lien de confiance en l'humain est souvent brisé ou endommagé chez les personnes, chez les survivants qui l'ont vécu. Donc, c'est ça qu'on essaie de réparer. On accompagne les personnes dans leur reconstruction de soi, parce que l'identité en a pris un coup dans le processus de déshumanisation. parce que c'est l'intention du bourreau dans des cas de violence.
Oui, c'est d'humilier, c'est d'anéantir.
Exactement, ouais. La personnalité de la personne, toute sa valeur et même son droit de vivre. Et ces personnes-là, souvent, se sont appropriées cette identité négative et on les aide à retrouver, à reconnecter avec leur identité positive pour qu'ils puissent se réactiver et pouvoir finalement s'épanouir et s'intégrer dans la société d'accueil.
Mais vous c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous vivez aussi comme thérapeute. Là. Vous voyez tout ce processus où les gens arrivent brisés et ils doivent recomposer à partir de morceaux compliqués parce qu'ils ne savent pas s'ils appartiennent à leur ancien pays ou à celui d'aujourd'hui. C'est ça, vous ne trouvez pas ça difficile quand on présente peut-être les réfugiés comme des gens là, qui viennent profiter d'un système alors que c'est souvent des gens qui sont dans l'état que vous dépeignez?
Mais premièrement, nous, on ne voit pas toujours, on ne voit pas tous les réfugiés. Ce ne sont pas tous les réfugiés et les demandeurs d'asile qui ont besoin de psychothérapie. Mais nous, on voit vraiment les personnes les plus vulnérables. Donc souvent, qui ont des personnes qui ont vécu des traumas multiples. Donc oui, effectivement, ils sont brisés, c'est difficile à voir. C'est difficile de voir quand il y a un discours négatif envers ces personnes-là parce que c'est sûr que nous, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont vraiment vécu de très grandes injustices et qui méritent en fait notre soutien. Donc, et ils sont affectés par le discours sociopolitique.
Évidemment.
Ils sont très sensibles à ça en fait parce que, et ce qu'on fait en thérapie, une des choses qu'on fait, c'est qu'on essaie de rétablir un sentiment de sécurité. Donc c'est sûr que quand il y a un discours négatif envers ces gens-là, eh bien, ça porte atteinte à leur sentiment de sécurité. Et ça peut être assez intimidant pour eux. Alors, en même temps qu'on leur demande de s'intégrer, si on projette un regard négatif sur eux qui risque d'être intimidant, ben, on ne facilite pas leur élan dans leur prise de place, dans leur façon de prendre leur place dans la société et de jouer un rôle actif. Ils vont avoir plus tendance peut-être à se rétracter.
Oui, bien sûr, à s'effacer un peu. Puis, donc, ces personnes-là, est-ce que ça compose une grande partie des personnes réfugiées, les gens qui sont brisés au point que vous le dépeignez?
Il n'y a pas vraiment de statistiques là-dessus.
Ouais.
En fait, ça serait... Moi, j'aimerais bien en avoir.
Un vrai statut, on va se le dire, là, juridiquement, ils sont souvent dans un flou. Là. On ne sait pas. Ils peuvent être sans papier, ils peuvent être réfugiés reçus, réfugiés en voie d'être reçus. Il y a même, en plus, quand on arrive au pays, une période de flou. Là.
Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, nous, on voit les demandeurs d'asile, donc des personnes qui n'ont pas encore de statut, donc qui vont devoir prouver en cours d'immigration qu'ils ont bien vécu ce qu'ils ont vécu. Mm-hmm. Alors ça, c'est un processus extrêmement stressant. On aide à la personne à être capable de retrouver une certaine force pour pouvoir témoigner devant un commissaire, parce que c'est très dur, c'est des événements douloureux à raconter. Il y en a même qui en ont oublié des parties. Mm. C'est comme un mécanisme de protection pour ne pas être envahi par la réaction émotionnelle.
N'importe quelle réaction, en fait, n'importe quelle situation difficile dans notre vie, on réagirait comme ça, hein, d'essayer d'oublier. Mais imaginons quand on a essayé d'intenter contre notre vie, quand on a décimé des membres de notre famille ou qu'on a seulement refusé qu'on existe au nom d'une ethnie ou d'une culture, etc.
À le prouver, c'est pas facile.
Il faut tout restituer ça pour que le commissaire entende puis qu'il nous donne le statut de réfugié, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, les gens peuvent être soit acceptés suite au jugement ou être refusés et déportés dans leur pays d'origine. Donc, c'est aussi leur vie et leur sécurité qui est en jeu ici. Donc, c'est un stress énorme. Mais on voit aussi des gens, des personnes qui sont réfugiées, qui sont arrivées ici avec un statut d'immigration, qui ont été parrainées par l'État, qui arrivent avec un statut et une fois qu'ils sont posés, souvent après 8 mois, même parfois après plusieurs années, et tout d'un coup, le trauma remonte à la surface.
Ouais.
Une fois qu'ils sont posés, une fois qu'ils ont trouvé un logement, que les enfants sont inscrits à l'école, etc., ils commencent à avoir un petit peu plus de temps pour penser. Et là, le trauma remonte à la surface. Et c'est là qu'ils sont référés par des médecins, des avocats, par des professionnels qui sont...
À votre réseau.
À notre réseau,
notamment.
Exactement.
Bon, je me retourne aussi vers Sylvain Thibault, qui est peut-être moins dans l'intervention aussi directe maintenant. Vous l'avez déjà été, ceci
ouais,
dit.
Tout à fait. Tout
vous
tout
avez
fait.
Vécu non seulement dans une famille qui a accueilli avec beaucoup de générosité des personnes réfugiées. Ça vous a formé, en tout cas, hein? C'est ce qu'on en
dit. En fait, moi, je pense que non seulement ça m'a formé, mais ça a complètement changé ou bouleversé ma vie, puis non seulement la mienne, mais celle de mes deux frères aussi, parce que c'était une affaire familiale. Et c'était à l'époque des Boat People, donc dans les années 80, qu'on a accueilli ces gens-là. Il y était à cette époque-là cinq personnes. En fait, c'était deux familles. Puis aujourd'hui, ben, avec les enfants et les petits-enfants, c'est rendu quand même 22 personnes.
Ah ouais.
Ben, ouais.
Donc, ça, c'est une immense famille.
Oui, c'est une immense famille, c'est ouais. ça, oui. Ouais. Et en fait, ça m'amène à parler peut-être de la TCRI qui a été créée justement à cette époque-là, à l'époque de l'arrivée là, des Boat People, là, des Indochinois, là, ce qu'on appelait les Indochinois, Laos, Cambodge et Vietnam, donc en 79. Et donc, c'est un regroupement dont le Riveau, évidemment, fait partie.
Voilà, donc, il faut resituer, je vous ai parlé de votre expérience personnelle, j'oserais dire d'accueil, mais depuis quand déjà vous êtes coordonnateur de la
depuis
table de concertation?
2015.
Depuis
2015.
Donc, quelques années, mais vous êtes coordonnateur de cette table qui regroupe combien d'organismes déjà?
En fait, c'est 142. Moi, je suis coordonnateur du volet parrainage des réfugiés.
Parfait, oui.
Donc, je m'occupe plutôt du parrainage des réfugiés que de l'ensemble là, des services qui sont offerts là, aux personnes réfugiées parrainées. Hein.
Donc, on a entendu cette histoire d'accueil, j'oserais dire, puis ce mouvement migratoire chez les personnes réfugiées. Dans quelques instants, après cet instant musical, on va s'adresser avec... on va parler avec M. Thibault pour comprendre de manière un peu plus macro comment ça se passe, pas juste à l'échelle individuelle, mais comme groupe, les réfugiés, qui ils sont, comment les aider.
Je m'y mêle, elle s'entremêle. Jamais ne sera un mot de passe. Derrière les masques où je suis inconnu, parmi les plus connus. Jusqu'au moment partager son temps entre plusieurs.
question de la semaine. Est-ce que les personnes réfugiées en situation de handicap reçoivent suffisamment d'aide pour assurer leur inclusion au Québec? Que pouvons-nous faire pour les soutenir?
Continuez de répondre à la question et vous pouvez entendre ces deux intervenants essentiels pour poursuivre la conversation. Donc, on s'est adressé beaucoup à Véronique Harvey, qui est travailleuse sociale et psychothérapeute au RIVO, ce réseau important là, qui regroupe des intervenants, qui accueille les personnes qui ont vécu la violence organisée. Et on est aussi avec Sylvain Thibault, qui a non seulement une histoire personnelle avec l'accueil des réfugiés, mais qui est actuellement coordonnateur du volet parrainage de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Monsieur Thibault, vous me disiez qu'il y avait énormément d'organismes. Est-ce qu'il y a une augmentation de ces organismes-là? Comment ça va? Est-ce qu'ils répondent à la demande? C'est quoi le portrait global des organismes avec lesquels vous travaillez?
Bien, en fait, les 142 organismes avec lesquels nous, on travaille à la TCRI, ou qu'on représente plutôt à la TCRI, sont répartis à travers l'ensemble du territoire du Québec, parce que la TCRI regroupe là, l'ensemble du territoire du Québec. Et ces organismes-là, ils sont multiples. Mm-hmm. Ils offrent des services, évidemment, de première ligne, comme par exemple l'accueil. On les appelle les organismes d'aide à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes. Mm-hmm. Donc, ça va, par exemple, de l'aide à la recherche de logement jusqu'à l'aide à la recherche d'un emploi.
Ouais. Et le logement, c'est déterminant, c'est quand même
oui.
le tout premier besoin qu'on essaie de combler après peut-être un peu d'aide de la Croix-Rouge pour vêtements ou autres. Mais donc, le logement, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment.
Ben, en fait, le logement à Montréal commence à poser un problème.
Oui.
Parce qu'on l'a vu là, l'été passé, puis ça a continué, mais dans une moindre mesure. L'arrivée des demandeurs d'asile au chemin Roxham. Mm. Donc, c'est sûr que ça vient mettre une pression sur le parc locatif à Montréal. Et ce qu'on a comme écho des organismes qui aident les demandeurs d'asile à se trouver un logement à Montréal, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver un logement abordable à Montréal.
Bien sûr. Et il y a même eu toutes sortes de réactions. Hein. On sait, les groupes les plus xénophobes, mm-hmm. ils sont allés de « bon, on a déjà passé de logement pour nos pauvres
ouais, ». Ouais, ouais,
mais
ouais.
Il reste que ces gens-là ont des besoins criants et fondamentaux. Donc, est-ce que les organismes arrivent à faire des mariages heureux entre ces personnes-là, des nouveaux endroits pour vivre? Est-ce qu'on répond à la demande et dans quelle mesure?
Moi, je peux vous dire qu'il y a, effectivement, là, il y a des groupes qui s'opposent à l'arrivée des demandeurs d'asile, et même des réfugiés ou même des immigrants, mais je peux vous dire qu'en termes de nombre, les personnes qui sont heureuses de les accueillir est beaucoup plus nombreux que ces personnes-là.
Ouais.
Donc, évidemment que, nous, on mise davantage sur le potentiel des personnes qui veulent aider, là. Si les gens ne veulent pas aider, mais qu'ils se tassent et qu'ils laissent la place à ceux qui veulent aider.
Là, il y en a beaucoup, hein? Il y a eu plusieurs, quand même, manifestations, que ce soit les macarons, les tucs. Il y avait des milliers de gens qui disaient vouloir être accueillants. Est-ce que ça s'est traduit par des personnes qui accueillent, qui parrainent? Ou...
Moi, Monsieur Racine, ça fait un petit bout de temps que je travaille avec les demandeurs d'asile et les réfugiés, puis j'avais jamais vu un mouvement de générosité de cette ampleur-là.
Ouais.
Moi, je recevais, là, en fait, mon poste a été créé à cette époque-là, en 2015, à l'époque où on commençait à parler des 25 000 réfugiés syriens là, que le Canada allait accueillir. Mm-hmm. Et j'ai reçu, moi, ma boîte courriel, je me souviens, lundi matin, j'étais revenu au boulot. J'avais quitté, évidemment, le vendredi, puis il y avait 2000 nouveaux courriels dans ma boîte courriel.
C'est rare qu'on est content à ce point-là, le lundi, d'avoir 2000 courriels.
Oui, oui. Puis c'était des beaux courriels d'encouragement. Puis je me souviens d'une dame, puis j'aimerais tellement ça la retrouver, cette dame-là, mais elle, c'est une coiffeuse. Et elle offrait des coupes gratuites aux personnes réfugiées parce qu'elle disait, ben ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de coupe de cheveux. Alors moi, c'est ce que je peux offrir. Il y a eu les 25 000 tucs, les 25 000 macarons. Il y a un groupe de vétérinaires qui s'était mobilisé pour aider
les
petits animaux. Moi, évidemment que les réfugiés n'arrivent pas avec leur petit chat, leur petit chien. Là,
non,
évidemment,
bien sûr, mais ça peut être utile quand même.
C'était, moi, j'étais en extase devant ce mouvement-là de population face à l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et je pense que ça se poursuit, peut-être dans une moindre mesure, Mais les gens ont été sensibilisés à cette cause-là. Puis, bon, vous avez parlé tantôt des besoins des personnes itinérantes. Mm-hmm. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement comparer les différents besoins. Je pense qu'un être humain, c'est un être humain. Mm-hmm. On ne peut pas nécessairement laisser un demandeur d'asile dormir l'hiver dehors. Bien pas plus fait. Qu'on doit le faire pour une personne née ici. Mm-hmm.
Et donc, vous parliez des différentes ressources parce que les groupes que vous regroupez, ça commence à faire lourd en groupe, là, mais bon, peu importe, sont un peu partout sur cette chaîne-là. Donc, il y a des gens qui aident au logement, des gens qui aident à l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres besoins qui sont répondus par les groupes de la table?
Bien, je pense que chaque organisme répond à un besoin. Bon, on a l'exemple de Riveau, là, qui est primordial, Riveau, dans notre milieu, puis que c'est un organisme qu'on apprécie énormément. Et moi, j'ai travaillé longtemps avec les demandeurs d'asile et j'ai référé souvent des gens chez Riveau et je voyais des sourires qui apparaissaient au fil des rencontres avec Riveau, une lumière dans les yeux qui n'était plus là parce que les gens arrivent ici, hein, c'est pas de gaieté de cœur là, qu'on fuit son pays. Mmh. Et d'autant plus qu'il y a comme une injustice. Moi, je l'ai souvent entendu celle-là. C'est moi qui est victime de ta persécution, puis c'est moi qui dois me taper le déracinement. Mmh. C'est lourd, c'est gros, c'est un déracinement là, d'un pays, là, c'est pas rien. Là.
Mais peu importe qu'on ait quitté son pays difficilement, l'exil est difficile.
Ouais, alors
imaginons
tout à fait.
Quand il est multiplié peut-être par
tout
ces éléments traumatisants.
Et Victor Hugo, qui était lui-même réfugié, a dit que l'exil était une longue nuit d'insomnie. Mmh. Ça dit beaucoup.
Oui, ouais, ça traverse les siècles, en tout cas. On parle de ressources, évidemment. Après les logements, c'est peut-être le nerf de la guerre. Un peu plus tôt, on s'était dit, en fait, dans ma méprise, que votre organisme avait vécu des coupures. Je parle bien sûr du Riveau et je me retourne vers Véronique Harvey. Il y a eu un retour de financement, mais ce n'est pas nécessairement si important que ça. En fait, est-ce que vous arrivez à répondre à la demande, surtout chez ces personnes qui vivent la détresse psychologique de l'exil comme ça?
Mais c'est-à-dire que le programme fédéral de santé intérimaire, qui est le programme de soins de santé qui couvre les besoins de services de santé pour les demandeurs d'asile, mm-hmm. a été coupé en 2012 et a été rétabli en 2016 par le gouvernement fédéral. C'est quand même très apprécié et ça nous aide.
Oui.
Mais ça,
son retour aide beaucoup.
Aide beaucoup, oui, exactement. Ouais. Le problème, c'est que ce ne sont pas toutes les personnes qu'on voit en thérapie qui sont couvertes par ce programme de soins de santé intérimaire. Mm. Donc, les gens qui sont ici depuis plusieurs années, les gens qui... Bon, donc, les frais de thérapie ou d'opération pour ce service qu'on offre gratuitement... Hein,
mm-hmm. Oui, c'est important de le dire.
Puis en 25 ans, on a offert presque 40 000 d'heures de thérapie gratuite. Là, ouais. Alors... oui, on répond à la demande lorsqu'on a le financement nécessaire, mais l'enjeu qu'on a depuis quelques années, c'est que le PFSI ne couvre pas tout. Alors, pour les personnes qui ne sont pas couvertes par le PFSI, on a besoin de soutien, de financement. En 2016, on a vu 134 personnes. En 2017, 134, ouais. On est monté à 262, donc c'est le double. Et cette année, on est au mois de mars et on a déjà 270 cas de personnes en suivi, ce qui est plus que l'ensemble de l'année 2017. Donc, on s'enligne, si la tendance se poursuit, pour voir environ 400 personnes au cours de l'année 2018.
C'est immense. Mais est-ce qu'on arrive à chiffrer le nombre de personnes qui auraient besoin de ce type de soutien-là? Parce qu'on a parlé de l'installation, etc., mais le soutien psychologique est important. Est-ce qu'on sait combien de gens réfugiés auraient besoin de ça pour bien réussir l'inclusion qui viendra?
Comme Véronique a dit tantôt, c'est pas nécessairement tous les réfugiés qui ont besoin de ce type d'aide-là. Par contre, les réfugiés qui en ont besoin, puis Véronique le dit aussi, tantôt, ça peut être dans le premier mois après l'arrivée, puis ça peut être dans la première année
après,
ou 10 ans après. Mm-hmm. Les traumas ressortent quand ils sont prêts, j'imagine, à ressortir. Là, c'est Véronique qui est l'experte là, dans ce niveau-là. Mais On doit soutenir. C'est un organisme qu'on doit soutenir, le Rivo, évidemment.
Donc, on va évidemment mettre les liens sur notre page. Vous continuez de répondre à la question à la maison. Et je dois remercier ces deux intervenants nécessaires en première ligne, Véronique Harvey, travailleuse sociale et psychothérapeute spécialisée en intervention auprès des personnes réfugiées au Rivo. Merci, Madame Harvey.
Merci.
Et aussi Sylvain Thibault qui œuvre avec une bonne bande d'organismes nécessaires partout au Québec, à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Merci, monsieur le coordonnateur. Merci, Sylvain Thibault.
Ça m'a fait plaisir.